Notre grand invité, Mohamed Amin Nejad, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Iran en France. Nicolas Falès du service international de RFI est à mes côtés pour échanger avec vous. Les échanges de frappes entre l'Iran et Israël qui ont donc continué cette nuit avec une fois de plus des frappes nombreuses de l'armée israélienne sur votre territoire, sur des cibles nucléaires, mais aussi sur le ministère de la Défense à Téhéran et pour la première fois sur des installations pétrolières et gazières. Quels sont les dégâts de cette nuit selon vos informations?
Bonjour et merci. Avant de parler sur les dégâts, il faut en parler sur les intentions. Parce que selon le rapport que votre collègue a présenté, le nucléaire et tout ça, c'est un prétexte. En fait, il y a une tentative de bouleversement d'un régime élu par son peuple. Donc, il faut le savoir, il faut que l'opinion internationale le sache bien qu'il y a un pays qui s'autorise à attaquer à n'importe quel pays quand il sent qu'il est coupable à ses propres yeux. Et quand on met dans le contexte que l'Israël, dans ses 75 années d'existence, avait attaqué 10 pays, 10 pays dans la région, nul voisin n'a pu être à l'abri des attaques israéliennes. Bien sûr, il y a une collaboration internationale, un soutien ici et là, mais ça veut dire que toujours il y a eu des prétextes, il y a eu des préparations, il y a eu des tentatives malicieuses, secrètes, comme vous dites, à l'intérieur de l'Iran.
Alors,
il y a eu un plan.
On va en reparler.
On va
développer toutes ces questions, mais oui. Sur les dégâts et sur le nucléaire, puisque vous parlez du nucléaire. Oui. Depuis vendredi, à quel point votre programme nucléaire a-t-il été endommagé, affaibli, ralenti par les frappes israéliennes?
Notre, à vrai dire, notre activité nucléaire, qu'il s'agit de l'enrichissement d'uranium, a eu toujours une nature pacifique.
Ce n'est pas ce que disent les Occidentaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui souligne que aucun autre pays n'a autant d'uranium enrichi à un tel niveau pour des raisons civiles.
Vous voyez, il n'y a pas une interdiction dans les traités concernant, comme la traité non-prolifération sur l'uranium enrichi et le montant et le tonnage, le kilogramme, tout ça. Donc, ce sont parmi les droits indéniables des membres signataires du traité de non-prolifération d'avoir les activités pacifiques, civiles, mais autant qu'il n'y a pas de preuves qu'il y a une déviation vers l'aspect militaire, sur les intentions, on ne peut pas juger. Il y a des discussions techniques, des rapports techniques sur lesquels on peut toujours parler, comme cela a été le cas il y a plus de 20 ans maintenant entre nous et l'agence et pays membres de l'agence.
Nicolas Falès a une question pour vous.
Et monsieur l'ambassadeur, ce dialogue, cette négociation sur le fond du dossier, le nucléaire, est-ce que cela peut reprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Pourquoi pas? On n'a jamais cessé les négociations. On n'a jamais. Vous vous souvenez quand il y a eu en 2015, il y a eu des soupçons et des prétendus avant 2015. On est entré dans la discussion. Il y a eu un droit reconnu pour tous les membres de la traité de non-prolifération d'avoir des activités civiles pacifiques d'enrichissement. Et les autres pays signataires qui avaient déjà cette capacité avaient devoir de les aider. À partir du moment, les Américains, entre nous et les Américains, on s'est mis d'accord sur une reconnaissance du droit des Iraniens d'avoir accès à cette science. À ce moment-là, on a commencé de coopérer avec agences plus qu'avant. Ce qui nous a vraiment blanchi toutes les accusations. Et puis après, dans cette circonstance-là, qu'on a signé un accord avec 5 plus 1. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et la communauté internationale, par le biais d'une résolution à l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a entériné cet accord et cette situation. Et depuis, il y a eu des inspections régulières. Si on compare le budget de l'AIEA consacré à la supervision et l'inspection iranienne, on peut comprendre que plus de tiers de son budget, plus de 40% des inspections se fait en Iran. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas eu d'une preuve de déviation de l'activité nucléaire iranienne vers militaire.
Alors justement, l'AIEA a quand même accusé et condamné l'Iran pour le non-respect de ses obligations pas plus tard que jeudi. Et votre pays a annoncé hier qu'il ne coopérera plus comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Qu'est-ce qui va changer?
D'abord, celui qui a été cité dans le rapport de l'agence, ce n'était pas que l'Iran a dévié et a renoncé de ses obligations dans le cadre de la traité de non-prolifération. C'est la première chose. Il y a eu deux coopérations demandées s'agissant de cas avant 2000. Tandis qu'à 2005, toutes les activités supposées douteuses ont été entérinées à l'époque à travers des inspections et des discussions et des preuves et des rapports qu'on a présentés. Maintenant, quand il s'agit de la dernière révolution que vous avez fait allusion, quand il y a, selon la Charte des Nations Unies, y compris les conventions additionnelles à la Convention de Genève, les résolutions, aucun pays n'a le droit à attaquer les installations atomiques. Tandis que l'Israël a fait ça unilatéralement, illégalement. Lui, il a des armes atomiques. Il est hors de l'inspection de l'Agence de l'énergie atomique. À cette circonstance-là, qu'une partie de notre installation a été atteinte par les bombardements illégaux, agressions illégitimes des Iraniens. Comment vous voulez savoir, vous voulez accepter qu'encore une fois, on fait un accès tout azimut et on met en danger notre peuple, la vie de notre peuple qui sont dans l'environnement où une explosion peut abîmer leur santé.
Donc on comprend que vous allez restreindre les accès à l'AIEA. Pour en revenir à l'offensive israélienne, l'Iran a-t-il été pris par surprise quand on entend que le Mossad était déployé sur le territoire depuis des mois, qu'il a fait rentrer du matériel, qu'il était installé sur le sol iranien? Y a-t-il eu un échec des renseignements iraniens à repérer et empêcher ces incursions, à prévoir l'offensive qui se préparait?
Depuis 2009, Israël a essayé maintes fois de pénétrer dans les milieux nucléaires avec cyberattaques ou avec l'envoi d'espions, d'agents de renseignement, d'envoyer à l'intérieur et aussi recruter à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant parce que la nature, il faut le dire, la nature de ce régime est de déstabiliser toute la région, malheureusement. Parce que nous avons besoin de notre peuple, les peuples de la région ont besoin de la stabilité, de la paix pour pouvoir se développer. Nous ne voulons pas une guerre dans la région et nous souffrons plus que les autres par une guerre. Et puis nous avons attaqué pendant les 300 dernières années à n'importe quel pays voisin et autres. Mais Israël a attaqué 10 pays. Et il y a la liste, ça ne s'arrêtera pas là-bas, tout le monde sait, parce que de la mer à la rivière, il y en a beaucoup, même au-delà.
L'Iran, en tout cas, riposte pour l'instant. Combien de temps votre pays peut-il tenir face à un conflit d'une telle intensité, face à des frappes aussi fortes qui affaiblissent vos capacités militaires?
Sur les conséquences et les dégâts, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas sur le terrain, je n'ai pas les informations, mais...
Mais l'Iran a-t-il encore les capacités de se défendre?
Il faut le souvenir. Nous avions une révolution très jeune, quand l'Irak nous a envahis. Et cela pendant 8 ans, à l'aide de tous les pouvoirs du monde à l'époque, mais les Iraniens ont combattu avec le sang contre cette agression, et à la fin du compte, ce sont eux qui ont réussi de vraiment gagner et de ne pas permettre pour la première fois dans l'histoire qu'un centimètre de pays soit occupé ou soit enlevé de l'Iran. Donc c'est le même sentiment, c'est la même décision, et les Iraniens vont battre jusqu'au fin.
Nicolas Falaise,
souffrez-vous aujourd'hui, l'Iran souffre-t-il aujourd'hui de l'affaiblissement de son réseau d'alliances dans la région, avec l'effondrement militaire du Hezbollah l'année dernière, la chute du régime de Bachar el-Assad, qui était l'un des alliés de l'Iran aux frontières d'Israël? Est-ce que l'Iran n'est pas finalement bien seul aujourd'hui dans cet épisode de confrontation militaire?
Non, à vrai dire, l'Iran était toujours seul. Comme je vous ai dit, quand en 1980, la guerre a été imposée à l'Iran, à l'époque, il n'y a pas eu ni Bachar el-Assad de telle imagination, parce qu'on avait toujours des relations respectueuses avec le père Bachar el-Assad, avec l'enfant, mais on n'était pas un protecteur sans limite de ses actions, plutôt. Et puis, le Hezbollah n'était pas là à l'époque. Le Liban était occupé par Israël. L'Iran ne s'appuie pas que sur son peuple et que sur son capacité, sa capacité de se défendre légitimement selon les règles internationales. Donc, on ne semble pas jamais affaibli que ça soit.
Merci, Mohamed Amin Nejad, ambassadeur d'Iran en France, invité ce matin de RFI. Très bonne journée.
Merci beaucoup.